étude des Pirkei Avot, nous avons décidé de commencer le premier chapitre. Donc, l'habitude est, dans les communautés, de lire les Pirkei Avot entre Pessah et Shavuot. Donc, dans les Pirkei Avot, en fait, il y a 5 chapitres. Et le dernier chapitre, comme il y a 6 semaines entre Pessah et Shavuot, donc on va ajouter des prakim, le dernier perek des Pirkei Avot, Shanu Chachamim Belashon HaMishna, ce sont des baraitot qui sont dans le même style que les Mishnayot. Donc, c'est ce que disent Chachamim, Shanu Chachamim Belashon HaMishna. Ils ont employé pour ces mémorot le même langage que la Mishnah. Donc, l'habitude est de commencer toujours les Pirkei Avot avec cette Mishnah, ce début de Mishnah, qui avait été à la fin de Sanhedrin, Kol Israël, Yesh Lahem, Helek, Le'olam Haba. Tout Israël ont une part, chacun d'Israël a une part dans Le'olam Haba. Chenehemar, Ve'amer, Kulam Tzadikim, Leman Yershu Ares, Netse Matay, Maase Adai Litpoel. Donc, c'est un verset, en vérité, c'est un pasouk dans Ishaïa. Ce pasouk-là, d'abord, on va essayer de justifier tout ça sort, d'où vient cette habitude d'introduire les Pirkei Avot par ce paragraphe-là, par ce passage-là. Et comment ça se fait quel lien y a-t-il entre cette Mishnah de Sanhedrin avec les Pirkei Avot, quel lien ça? Donc à ce sujet, le Rama Mifano a soulevé la question. Il s'est posé la question pourquoi a-t-on introduit cela? Alors lui il dit Rama Mifano dans les Pirkei Avot et enfin il y a un nouveau pirouche qui a une dizaine d'années qui a été trouvé sur les Pirkei Avot, c'est celui qui a édité, il a ramené tout ce qui est mentionné dans les innombrables ouvrages de Rama Mifano qui concernent les Pirkei Avot et il en a fait un recueil. Donc il dit à ce sujet que pour lui, il est évident que quand il dit parce qu'il peut arriver, que si par exemple le dernier jour de Pessah, ça tombe un vendredi, donc le septième jour de Pessah tombe un vendredi, alors Le Shabbat suivant, c'est Hol. Donc, Pessah n'a que 7 jours. Il a 8 jours en Khousselaret. Et dit alors, en Eretz Israël, ils vont passer de dernier jour de Pessah, vendredi, à samedi, la semaine. Alors que s'ils avaient commencé, eux, à lire les Pirkei Avot, alors ils seraient trouvés en décalage avec les communautés de Khousselaret. Puisque en Khousselaret, le huitième jour de Pessah tomberait Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'habitude de lire les Mishnayot des derniers pérecs de Sanhedrin, où on parle de la résurrection des morts pendant Shabbat Kol HaMoed, la fameuse Atzamot et Yeveshot, la résurrection. Donc, pour quelle raison on fait cette Haftara? On a institué la Haftara de la résurrection, parce que Chachamim disent que Amitim Ativim Lehayot, donc c'est à l'époque de Pessah que les morts vont, la résurrection des morts va se produire. Donc comme c'est le même et qu'il n'est pas un décalage entre les communautés d'Eretz Israël et celles de Khoutzlaret, alors le Rama de Fano dit ils avaient pris l'habitude de lire toutes ces Mishnayot là, Kol Israël chez Abba, quel est le Olam Haba, etc. Jusqu'à la Mishnah 4 ou 5, il explique chaque élément de Et la semaine d'après, alors toutes les communautés et les gens ont pris l'habitude de lire la première Mishnah et ça s'introduit. Peut-être que la première fois, quelqu'un s'est dit, mais on lit d'abord Kol Israël, après quelqu'un l'a interrompu, il a dit, bon, tu commences la première Mishnah, le premier paragraphe, mais après tu arrêtes parce que ça n'a plus de lien. Et ça a précisé ou à corriger cela. Ça n'a pas été quelque chose de dérangeant. Mais en fait, il dit que ça n'a pas de rapport direct avec les Pirkei Avot. C'est ce que dit Rama Mifano. À présent, il s'agit de comprendre cette Boraïta, cette Mishnah. Kol Israël, Yeshlem, Helek, Yoram Abba. Même, et d'autres Mefarshim, Rabbi Abraham Galanti, dit aussi dans son pirouche qu'on parle souvent de Helek, Yoram Abba. Ou bien on dit parfois Kol Asher Alachom, Bokhol Mouftar, Oshu Ben, Yoram Abba. D'autres fois, on dit « Mezouman » et « Olamaba ». On voit ici qu'il y a quatre expressions qui parlent, qui expliquent ces éléments « Haya Olamaba ». De quoi s'agit-il? Alors, les Mfarshim disent « Rama Mifado ». En fait, il y a, de la même manière que la délivrance, elle se passe, la délivrance physique, en Égypte en particulier, se passe en quatre étapes. Alors, il dit que, de la même manière que la Géoula en Égypte, on dit Arba l'échonotiel Géoula, Veitzalti, Veotzeti, Vegalti, etc. Il y a quatre l'échonotes de Géoula, Keneged, Arba Kosot, etc., comme c'est marqué dans la Gemara, dans Yerushalmi. Il dit la même chose. La délivrance de l'âme aussi se passe en quatre étapes. La part que nous avons dans le monde futur, il y a des niveaux, des degrés, etc., qui ne sont pas identiques. Alors, il y a ce qu'on appelle « Kol Israël Eshem Helek » là-bas. C'est une part. Alors, il dit ça vient de la part qui correspond à tout le monde. C'est un niveau relativement bas, enfin bas. C'est le niveau le plus bas qui correspond à la dernière lettre du nom de Dieu. Après, il est dit « Kol Ashoné Alachot Aou Ben Alamaba ». Ben, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est le Behena du Vav du Shema Baya. Après cela, il y a un niveau encore plus élevé qui est Zochel et Alamaba. C'est encore plus élevé. Et après, il y a encore plus, c'est Areol Zochel et Haye, Mezouman et Haye, Alamaba. C'est encore un niveau plus haut. Donc, il y a dans tout ça des niveaux, et même dans chacun des niveaux. Chaque étape, si on veut, il y a des niveaux encore, des degrés infinis, chacun selon ce qu'il y a. Donc ça, c'est important. Ici, donc, il s'agit du niveau basique qui concerne tout le monde. Il y a lieu aussi de rajouter ici, que certains rishonim disent, il ne faut pas penser à un moment que si nous disons, c'est la félicité, le tikkun des nishamot, en vérité, le qu'est-ce qui se passe dans leur olam haba. Tzadikim yoshvim, veneni va'atirotem berachem. Les tzadikim, ils sont installés, ils ont les couronnes sur leur tête et ils jouissent de la présence de la Shekhinah. Ça veut dire qu'ils sont en train, ils arrivent à un niveau des malachim. Ils arrivent à un niveau élevé des malachim. Qu'est-ce qu'ils font les malachim toute la journée? Ils disent la louange de Dieu et ils disparaissent. Comme c'est marqué dans le Yotzer, on lit ça exactement tous les jours dans le Yotzer. Que les malachim, quand on dit la Kdusha du Yotzer, que les malachim, il y a trois niveaux de malachim, les ofanim, le niveau bleu bas, après il y a les hayot HaKodesh et les séraphim. Donc ils veulent, les uns disent aux autres, allons-y, louons l'Éternel, louons HaKadosh Baruch Hu, et quand ils louent, ils fondent. Pourquoi? Parce que de la sueur, de la crainte, du tremblement des séraphim, il sort une transpiration en disant qui les fait fondre, ils disparaissent. Et après, que je me roule les recrée immédiatement après. C'est le sens même des malachim. Le malachim est là pour faire une mission. Dès qu'il finit la mission, il disparaît. Et que je me roule le redonne les énergies pour recommencer sa mission. Donc, c'est ça la finalité du Olam Haba. C'est d'être né Mizif HaShekhinah. Ça veut dire d'avoir la possibilité de louer à Kadosh Baruch Hu au niveau extrêmement élevé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les différents niveaux de la compréhension de ce que c'est le Olam Haba. Mais non, tout le monde doit mériter cela. S'il arrive, par exemple, qu'un juif, disons, supposé, la Gemara elle dit qu'il y a des gens qui ne méritent pas, qui perdent. La Mishnah juste après, elle va dire Veloen Shalam Haik Olam Haba. Il y en a qui perdent le Haik Olam Haba. En fait, si un ben adam, un juif, il a perdu le Olam Haba, alors c'est kaviachol, une situation d'échec pour un kadosh baruch hu, puisque la neshama, elle est helek, elle est roi du mal. C'est une part de Dieu, la Neshama. Et si là, cette Neshama-là, elle est perdue, elle est rejetée, donc c'est comme si qu'il y avait une part même d'Akadosh Baruch Hu qui était perdue. Alors, les Mefarshim disent, expliquent que même il y a le Ramchal, il mentionne ça dans dans le deuxième livre, que même c'est la Gemara qui dit que même le Racha, Risha Israël, Posha Israël, mais les misvot carrément, ils ont tellement de misvot comme une grenade. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de mérite. Ça veut dire que même si ils perdent, ils n'ont pas eu suffisamment de mérite pour mériter leur part, leur madour, comme il est dit, que chacun y va à sa propre place, dans son propre monde. Et chaque tzadik, il a une dimension unique qui lui convient. Donc chacun s'est créé un monde dans leur lamaba, sa part dans leur lamaba. Dans leur lamaba. Même si ce bonhomme-là, il a perdu ça. Mais en tant qu'individu, il a perdu. Mais il doit avoir une part globale qui concerne l'ensemble d'Am Israël. C'est par le mérite global, parce que lui, il reste malgré tout quelqu'un qui appartient à la globalité de l'Am Israël. Donc, il a sa part dans l'Am Israël, ne peut pas être perdu. Et au maximum, il sera Naasa Afartahat, Pocha Israël, Bekoufam, Naasim, Afartahat, Raglem, Tchadikim. Donc, ils sont même, malgré tout, ils restent, ils ont une part en tant que là où les Tchadikim, ils posent leurs pieds. Donc ça veut dire que comprenant que c'est la sanction ou la disparition de l'individu du Rama, c'est kaviyachol comme une situation d'échec et qui n'est pas recevable. C'est-à-dire c'est quand on dit kol Israël yeshlem halek Rama, c'est vaday un halek. Ils ont une part. Alors sur ça il dit le pasuk ve'amer kulam tzadikim. Il dit le ton peuple sont tous des tzadikim. Les Rolam Yeshua restent, toujours ils hériteront de la terre, toujours, c'est une garantie. Comment on fait? Let's say, Matai, Maasé, Adai, Lipay. Alors, ça, c'est la fin du pasouk, elle demande d'être commentée. C'est, Netser Matai, c'est comme quelqu'un, comme si il prend une branche de sa plantation, il plante lui-même, et ça va permettre de glorifier, ce sont les actions de mes mains qui vont me glorifier. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il est dit ici? Il est dit ici, vers Amer Koulam Tzadikim. Alors, mais nous, on sait qu'il suffit de sortir dans la rue pour voir que Amer, ils sont pas Koulam Tzadikim. Alors, ça veut dire, vers Amer Koulam Tzadikim, les Mahal, les Olam, Irshoaret. Ils vont tous hériter Irshoaret, c'est-à-dire leur Olam, pas. C'est-à-dire, le Zera Shimshon, Tolda Shimshon, il explique qu'on peut pas, justement, il n'est pas acceptable qu'il y ait des gens qui perdent. Qui soient qualifiés d'Israël et qui perdent sur la Rabba. Alors, même s'ils ne sont pas tzadikim, alors attends beaucoup, il a d'infinis moyens pour faire en sorte que la personne, elle soit amenée à réparation. Comment? Il dit, comme tu prends une branche, alors il va toujours, attends beaucoup, va faire en sorte que la personne soit amenée à réparation. Ou bien, de son vivant, il fait tchouva pour toutes sortes, par toutes sortes de moyens. Ou bien, Akadosh Baruch Hu le ramène de Gilgul, le Ksod de Gilgul. Alors, c'est ce qui est marqué ici. Netzer Ma'atai, Akadosh Baruch Hu, il prend la Neshama, il la plante dans la terre, comme une plantation, et avec cela, ça va procurer, produire et grandir, et de faire de sorte que automatiquement, le Ben Adam, il sera amené à avoir sa part dans la mort. C'est ce que nous dit le Zera Shimshon. C'est ça le concept de la Mishnah. C'est-à-dire que donc, c'est en fait, ici, il y a, on commence les Pirkei Avot avec une note bénéfique et d'espoir, d'espérance, de positivité totale. C'est ça le sens de cette Mishnah. Que la part du Olam Haba, elle reviendra à chacun. Il ne faut pas croire que nous allons la perdre et que certains la perdent, etc. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a des moyens, tous les moyens lui seront bons pour amener justement chaque individu à réparation. Ça, c'est la raison pour laquelle on introduit cette Mishnah. Donc, on a introduit le Pirkei Avot par cette Mishnah. Tout ce que explique les Mefarshim. Maintenant, si cette Mishnah, la Mishnah en elle-même des Perkei Avot, elle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elle est, elle traduit, c'est un témoignage de la fidélité de la transmission orale. C'est quelque chose de fondamental. Le Tosfot Yom Tov, dans les Perkei Avot, au début de Perkei Avot, il ramène un morceau de ce que le Rambam dit dans l'introduction au Mishnayot. Et il dit que c'est Midot, que c'est le Chacham. Pourquoi? Il essaie de justifier. Pourquoi les Perkei Avot qui viennent après Sanhedrin et Avot Hazara? Il dit parce qu'on parle là-bas des gens qui dirigent le peuple. Ce sont les gens qui sont d'importance, qui détiennent le savoir. Donc, on se doit de considérer ces gens-là qui détiennent le savoir comme étant un chaînon de la transmission, importance capitale. Donc, ils méritent le kavod, qu'on les respecte, qu'on les honore, et eux-mêmes, ils doivent être dignes de cette transmission, qu'ils détiennent le savoir. Et de plus, on doit montrer aux gens que le savoir, il n'est pas juste un savoir de tel ou tel, c'est un savoir qui s'inscrit dans le chaînon, dans la chaîne de la transmission. C'est pour ça qu'on va introduire en disant « Moshe Kibel Torah Mishinai, Umsara Yehoshua ». Donc, c'est ça l'importance de la Mishnah, la transmission fidèle du savoir. Ce n'est pas un truc fortuit, aléatoire, c'est une transmission fidèle à tel point que Chachamim vont dire Afilu Moshe Talmid Batatul Hadesh Nitna Moshe Mishnah. Que même ce qu'un Talmid Chacham à la fin des temps il va dire un Hidush, ce Hidush là, Hidush Din ou Hidush de Halakha ou Hidush de Pirushim, il est transmis à Moshe au Sinaï, c'est fait partie de la transmission. Donc ça c'est relativement important. Alors revenons maintenant à la Mishnah. Alors Moshe Kibel Torah Mishnah. Moshe a reçu la Torah au Sinaï et il a transmise à Yoshua. Yoshua aux anciens, aux Zekenim, et aux Zekenim, aux Nevi'im, aux prophètes. Donc tout ça, c'est 1000 ans environ. Puisque les derniers prophètes, Haggai, Melachi, Zechariah, Haggai, Melachi, au début du deuxième temple. Donc c'est environ 1000 ans, à peu près 1000 ans, depuis le moment de Kabbalat Torah. Quand les Lévites transmettent la Torah, ils transmettent la Torah au Anshe Knesset Gedola, aux membres de la Grande Assemblée. Et là, ici, il est dans la Mishnah, on souligne qu'à nouveau, il est dit Messarua. Le mot Messara, transmettre, il est dit qu'une fois. Moshe Kibel Torah, Messinam, Sarah, Léoshua. De Yoshua, Zekenim. Zekenim ou Lévites, il n'y a pas marqué transmission. Les Lévites, eux, vont transmettre la Torah à un Anshe Knesset Gedola. Donc ici, ça veut dire qu'il y a deux transmissions. Une transmission d'une nouvelle dimension. Et à ce sujet, dans ce Dérolam, il est dit, une baraita dans ce Dérolam, qui dit, Adkan, ayu nevi'im itnabim, mikan va'elach, at oznecha, ushma divrei chachamim. Ça veut dire que la première partie de la transmission de Moshe jusqu'au Nevi'im, il s'agit d'une transmission du savoir, certes, mais d'un savoir d'une autre dimension qui concerne en fait la prophétie. Moshe, on sait bien qu'il n'y a que Moshe qui pouvait dire la halakha de manière prophétique, mais la Gemara dit que au décès de Moshe, on a oublié 300, 3000, etc. à la chôte. Et on n'a pas pu. Alors, on a dit à Yeshua, demande. Et dit, Elo Bashamayimi, on ne peut pas faire demander la Torah de manière prophétique. Il faut se casser la tête. Donc, il faut la retrouver à la chôte d'une manière en étudiant. Alors, qui est-ce qui l'a fait? C'est un Tinel Ben Kenaz, Ziram Bipilpulo. Donc, ça, on voit qu'on ne peut pas. Mais dans le fond, cette transmission du savoir, elle contient la dimension prophétique. C'est ça ce qu'il faut pas oublier. Mais de quand arrive un tchèque de là, cette dimension-là, elle disparaît. Il ne reste plus que la dimension de l'étude elle-même de par elle-même. Donc la dimension prophétique n'existe plus et elle va être remplacée, si on veut, par l'effort et le Ameka Alaha que les Chachamim ils vont le labeur, c'est-à-dire que les Chachamim ils vont donner, investir dans la compréhension de la Torah, ça remplace le niveau prophétique. Et Rabbi Yitzhak Ravert, il souligne cela, il dit que il restera toujours jusqu'à la fin des temps le concept de Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. On verra, Rama Mifano parle de ça à plusieurs endroits. Il dit par exemple qu'il n'y a pas un texte des Chazal qui est écrit par hasard, qu'on a mis tel mot à la place de tel mot, c'est un hasard. Chaque mot est inspiré et chaque mot a un sens, non seulement de Pshat, de Halakha, mais aussi prophétique. De Rome et Kadvarim, de Sodot dedans. Donc ça, pour écrire, si on considère que tout le Talmud, il est un recueil de discussions, alors pourquoi avoir exprimé les choses de telle manière et pas de telle autre manière? Mais parce qu'ils ont été inspirés quand ils l'ont codifié. Et même jusqu'au nom des Chachamim, qui parfois sont des surnoms, ça aussi, ça sous-entend une inspiration et une intention. Et ça contient des secrets certains. Donc, c'est le chidouche lui-même innovateur, que le Chacham, il va innover, de par l'idée d'innover, de trouver de nouveaux chidouchim, d'alachot, c'est ça aussi, c'est un concept d'inspiration. Mais qui n'est pas évidemment une inspiration prophétique, qui est une inspiration qui est de lumière qui est contenue en toi. Et c'est ça le but justement de l'étude, c'est de faire jaillir cette lumière. C'est la différence qu'il y a entre le premier Messara de Yoshua et le Messaroua, les insectes. Alors le Rambam, il dit à ce sujet, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens-là? Il dit, et vous, Moutoulin Badi, il faut être circonspect, prudent dans le jugement. Il faut former de nombreux disciples, ériger des barrières pour préserver la Torah. Le Rambam dit, de manière certaine, que à qui ça s'adresse? Il dit, est-ce que moi je suis concerné par Aïmidou Talmid de Marbé, vous m'étonnez, Badi? Moi je ne suis pas juge. Alors ça ne me concerne pas. Ça ne concerne que les juges. Aïmidou Talmid de Marbé, ça concerne les grands rachis et chivot. Faites des siyag à Torah, faites des barrières, ça concerne les chachamim. Alors en vérité, oui, ça concerne essentiellement les chachamim. Il dit, parce que on vient, le Rambam, il dit, on vient mettre en garde ceux qui aspirent et qui prétendent aux fonctions les plus élevées, à faire attention. C'est vrai que la fonction élevée est une charge terrible, mais et quand on doit, le peuple doit respecter les grands rabbins, les dayanim, etc., de tout temps. Mais ils nous disent, Chachamim, le Rambam dit que ces gens-là qui sont les yeux du peuple, qui sont les guides, eux, ils doivent faire encore plus attention. Je dis, parce que si un des communs individus, un kidam, il se comporte mal, alors il n'engage que lui, c'est, il cause du tort, il se cause à lui du tort, mais ça n'engage personne d'autre. C'est-à-dire, le tort que lui fait, c'est lui, il ne pratique pas des bonnes midotes, alors c'est son problème. Mais si c'est le dayan qui ne pratique pas de bonnes midotes, ou bien si c'est le rabbin, c'est vrai, on parle des guides, des gens importants de la communauté. Quand on va voir les gens qui étaient les élèves de ces gens-là, les Shimon HaTzadik, Antignogis Soho, après on va voir les couples, les Zougot, hein, qui étaient Nassi, l'autre qui était Avbedin, ce sont des gens qui dans l'attitude, la fonction, elle entraîne, ils ont une responsabilité collective. Alors dire à ici que ceux-là, ils doivent faire encore plus attention à tout ça. Parce que si eux, ils ne se comportent pas comme ils se doivent, alors ils vont faillir eux-mêmes, ils vont causer du tort à eux-mêmes, et aussi ils vont causer du tort à tout l'ensemble de la communauté. Donc en premier lieu, ces paroles-là s'adressent à ceux qui dirigent le peuple. C'est ce que dit le Rambam au début, le Tosfot Yom Tov, il ramène ça au début du Kiro. Alors regardons ce qu'il dit ici. Moshe Kibel de Rami Sinai. Rami Mifano, il se pose la question. C'est-à-dire quoi, Kibel? C'est-à-dire quoi? De quoi on parle-t-on? On parle du Sefer Torah? On parle d'un livre? On parle des tables de la loi? On parle de quoi? Est-ce que quand je dis tu as reçu, on parle d'un objet. Tu reçois un objet. Mais si il reçoit la Torah, alors il explique la Torah, il dit, il a été massif. Pourquoi tu dis tu as bien reçu ce que je t'ai expliqué? C'est quoi je t'ai expliqué? Je t'ai envoyé un papier, je t'ai envoyé un livre. J'ai expliqué un nekuda, un kushia, un tirout, un pshat. Alors il dit, j'aurais pas dit que tu as reçu. Tu as saisi ce que j'ai dit? Tu as compris ce que j'ai dit? Pourquoi il dit kibel? Et la question, il dit, elle est fondamentale. Le mot kibel ne s'applique que sur un objet. Et que s'il s'agit de la connaissance, du savoir, etc., on aurait dû dire, mais si, il a compris, il a saisi, il a maîtrisé, on aurait employé un autre terme. Alors il dit, le Rama Mifano, il y a une Mishnah beaucoup plus loin dans les Perkei Avot, il dit, on doit faire, moi j'avais une kushia depuis que j'étais jeune, chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, Vaidaber Hashem El Moshe Lemo. Par exemple, prenons un cas classique que tout le monde connaît. Voyons, Mère Hashem El Moshe Lemo. Daber El Béni Israël, va maintenant sur les M'titi d'Akanfe Verde Mekorota. Donc, toujours, la Torah, elle commence un sujet, ici en l'occurrence par un chat titi. Alors on dit, voilà, parle aux enfants, dis-leur de faire des franges aux vêtements. D'accord, très bien. Alors la discussion, la parole de Moshe qui s'adresse à Israël, elle dit, Daber El Béni Israël, dis-leur de faire des choses. Très bien. Donc, c'est au deuxième verset. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué au premier? Voyons, Mère Hachem El Moshe, les morts. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Et comme ça, que vous prenez tous les psukim qui sont des psukim introductifs, Hachem a parlé à Moshe en disant ces termes. Après, il dit, dis-leur, parle-leur. C'est un autre dibour. Donc, la première, dans le premier verset, il a dit quoi? Dans cette question-là, j'avais des amis. Et si le Rama Mifano, il répond à cette question. Il dit qu'en vérité, sache que plus loin, il y a marqué, Havivim Israël, Shinitanem, Kelihemda. Il dit, la Mishnah, plus loin, elle dira, dans le troisième ou quatrième péret, que Israël, ils sont un peuple chéri, et que le jour où leur a donné, l'objet du trésor. C'est quoi le trésor? Pourquoi tu dis pas il leur a donné le trésor? Keli Hemda. Qu'est-ce que ça veut dire Keli Hemda? Pourquoi tu dis pas Hemda? Alors, on dit parce qu'il y a deux choses dans la Torah, il y a deux niveaux. Il y a d'une part ce qui appartient à Moshe, la Hemda elle-même. La Hemda, le trésor lui-même. Le trésor lui-même, c'est le niveau spirituel de la compréhension, de la connaissance qui est transmis uniquement à Moshe. Et il y a un autre, qui est l'objet dans quoi? Cette chokhma-là qui est donnée à Moshe. Maintenant, cette chokhma-là, elle est mise dans un écran. Cet écran-là, c'est pas la chokhma, c'est juste le couvercle ou l'enveloppe de la chokhma. Cette enveloppe-là qui a été donnée à Israël. Havim Israël, Shinitanem, Keli Hemda. Il fait une distinction entre ce que Moshe, on lui donne, ce que la Kadosh Baruch Hu donne à Moshe, et ce que Moshe va donner à Israël. Moshe va donner à Israël que ce qui lui revient. C'est la partie, la différence, elle est compréhensible. Ça veut dire qu'il y a un niveau de Torah totalement spirituel, d'un niveau extrêmement élevé, qui n'a été donné qu'à Moshe. Il y a un autre niveau de Torah qui est qualifié d'objet ou d'écrin dans lequel le trésor se place. Alors ça, c'est un concept plus physique et matériel. C'est ça qui a été donné à Yoshua. C'est ce qui a marqué. Moshe kibel Torah mi-Sinai, ou Sarah le Yoshua. Ça veut dire que ce que Moshe a reçu au Sinai et qu'il va transmettre, c'est la partie qui concerne Yoshua. C'est la partie, c'est le Keli Hemda et non pas la Hemda. Il y a le trésor et il y a l'objet, l'écran dans lequel s'installe le trésor, où on place le trésor. Donc le trésor lui-même, il est à Moshe. Et ce qu'il va donner, c'est une partie de cela, il va l'adapter, il va le mettre à la portée de Yoshua pour qu'il le transmette. Et tout ce que Yoshua recevra, il le transmettra. Donc c'est ce qui est marqué ici. Moshe kibel Torah mi-Sinai, umsara li Yoshua. Yoshua, les Ékénim et les Lévites. Maintenant, ça prend 1000 ans. Mais les Lévites, mais ça roule un chèque de César Gadola. Donc, maintenant, sur un chèque de César Gadola, il y a la Gemara, elle dit pourquoi il s'appelle les membres de la grande assemblée. Alors, il dit pourquoi grande et pourquoi assemblée? Ah, c'est quoi nous sort ce mot-là? Alors, il dit c'est parce que ils ont remis à zéro Atara les Oshna. Alors, la Gemara, dans Yoma, elle raconte que Yirmiyahu, quand il a assisté à la destruction du temple, alors il a dit, ça veut dire quoi, Nora? Alors, lui, il a arrêté de dire Nora dans la Amida. Bon, je ne sais pas si à leur époque il faisait la Amida. En tout cas, lui, ici, il faisait la Amida. Et le texte de la Amida, dans sa propre Amida, il n'a pas dit Nora. Il a dit Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Yaakov. Elle, Agadol, a dit bon. Nora, il n'a pas dit. Il n'a plus dit que Dieu il était redoutable. Pourquoi? Il dit parce que justement, si les ennemis sont rentrés dans le palais du roi et ils l'ont profané, on ne voit pas que Dieu il est redoutable. Donc il a arrêté de faire. Daniel, il a vu combien les Juifs ils ont été asservis. Il a dit oui, il est fort, il est plus fort, alors il l'a enlevé. Et eux, plus tard, ils ont remis ça, ils ont remis ces termes-là à leur place. Parce qu'ils ont dit que le seul fait qu'Israël persiste et continue, qu'Akadosh Baruch Hu, il arrive à dominer, à maîtriser, laisser faire et ne pas se mettre en colère, et ne pas, ça en soi, c'est la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on a dit, un Tchekisagadou. Ça, c'est pour justifier que cette appellation de Gadol, parce que eux, ils ont continué à dire à Gadol. C'est-à-dire qu'en vérité, la question se pose, ils auraient dû les appeler un Chekneset à Nora ou un Chekneset à Gibora. Non, à Gedola, ça veut dire que quand on dit à Gadol, le mot Gadol ne se suffit pas à lui-même. Il faut, si on n'a pas la valeur du mot Gadol, il est grand de bonté, n'est pas suffisant en soi. Il faut lui ajouter à Gibor Vernora toute la plénitude de la puissance de Dieu, la grandeur, elle s'exprime quand nous avons aussi le Gibor et le Nord. Ça, c'est le point important pour justifier l'appellation d'un Shekhsed Agadola. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Emambouche Shadvarim. Ils ont dit, il faut être circonspect, prudent dans le jugement. Donc, il s'agit en fait non seulement de chaque individu, des juges, mais aussi de chaque individu. Le jugement que nous portons les uns sur les autres, et nous nous faisons non seulement, nous sommes tous des juges par rapport à des situations. Alors, il faut être circonspect, prendre du recul, ne pas s'empresser, de manière à maîtriser le dîme. Le dîme, il nécessite une maîtrise et une atténuation. Donc, si on s'empresse, on s'engouffre dans le jugement, alors on va le développer. Il faut arriver à le maîtriser. Après, il dit, Ve'emidu talmidim rabbi. Il dit pas emidu talmidim rabbi. Il dit emidu talmidim arbe. Arbe, ça veut dire, il n'est pas ici question du nombre, il est question ici de former des êtres à un mito. L'aramite, ça veut dire qu'il le met debout, c'est-à-dire qu'il donne le maître, il va donner à l'élève suffisamment de moyens pour se réaliser, pour s'épanouir. C'est toute la chorma de la transmission du savoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de manière que Moshe, il va laisser Yoshua, il va permettre à Yoshua de s'épanouir. Le Zerachim Shon, d'ailleurs, sur ça, il dit, quelle différence il y a entre Kabbalah et Messira? Il amène des Gmarot. Et il dit que quand on dit Kibel, donc il y a deux choses dans la Torah. Il y a l'enseignement lui-même, c'est-à-dire le savoir, c'est-à-dire la halakha, la shmoa, ce que le Rambam dit, il dit les shmoaot, c'est la halakha, c'est comme ça. Il y a la raison des choses, la compréhension des choses. Alors, Moshe, il a reçu de Hakadosh Baruch Hu aussi bien le savoir que la connaissance, que la compréhension. Maintenant, quand il transmet à Yoshua, qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet que la connaissance. Yoshua est suffisamment capable, tout seul, de comprendre. Il y a ce qu'on appelle le savir, qui est bel mais savir. Je ne sais pas la halakha. Je ne savais pas ça. Ah, maintenant que tu me l'as dit, je comprends. Je suis capable de la comprendre tout seul. De donner la justice, de les justifier, de comprendre en profondeur la chose de moi-même. Ça, c'est la svara. Et l'essentiel du savoir, c'est la svara. Comme la Gemara a dit dans Gittin, Rav Aviatar, il savait pas une halakha. Il dit, voilà, mais comment tu dis que Rav Aviatar, c'est un homme grand, un grand homme? Voilà, il savait pas cette halakha. Il savait pas, c'est pas grave. Il savait pas là. Mais il savait, il a compris. L'essentiel, c'est de comprendre les choses. Il est possible que quelqu'un ne sache pas tel ou tel halakha. Il n'est pas entendu. Nul ne peut tout savoir. Mais la grandeur de l'homme, elle se manifeste, elle se qualifie par rapport à sa capacité à comprendre les choses en profondeur. Et ça, c'est la svara de Messaroua. Quand on dit Massar, Massar Hashmoa, il a transmis l'enseignement brut. Et Yoshua était capable de le comprendre de lui-même. Et ainsi de suite, jusqu'à les Lévites. C'est-à-dire que tous ces gens-là, de qui il s'agit, c'est des gens qui ont assisté, on parle des gens qui étaient présents lors du don de la Torah. Donc le fait d'avoir entendu directement la Torah de la Kadosh Baruch Hu, ça a permis à chacun d'avoir une connaissance, une compréhension personnelle des choses. Et c'est comme ça que ça se transmet la Torah. On voit que par exemple, dans la Gemara, la Gemara, elle dit dans les Darim, et c'est le der Mishnah Ketzad. Comment se passe la transmission? Il dit, Moshe, il s'assoit, Aaron, il rentre. Moshe, il dit une fois à l'alakha, l'enseignement à Aaron. Quand il finit, Aaron, il se met à droite, il rentre Nadav Aviou, Ezar Vitamar. Il leur redit encore une fois. Il se met à droite, à gauche. Après, il rentre les Zekénim. Et Moshe répète une troisième fois. Et après, il rentre le peuple, il répète une quatrième fois. Dès que Moshe a répété quatre fois, il s'en va. Mais non. Aaron, il a entendu quatre fois, mais les enfants, ils ont entendu que trois fois. Donc, c'est Aaron qui répète. Quand Aaron, il a répété une fois, il s'en va. Et c'est les enfants qui répètent, etc. De sorte que chacun aura entendu quatre fois. Mais la question qui se pose, pourquoi Moshe, il sort? Pourquoi il n'insiste pas? Comment Aaron, il va expliquer? Peut-être que Aaron, il n'a pas bien compris. Peut-être qu'il ne va pas bien expliquer. Peut-être qu'il faut corriger. Non, Moshe s'en va. Il laisse la place à Aaron. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que de sorte que chacun va laisser la place à l'autre. Moi, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Maintenant, toi, tu transmets, tu comprends comme tu comprends et tu transmets tel que toi, tu le comprends, tel que toi, tu l'as apprécié, comme tu l'as appréhendé. C'est ça l'enseignement et la transmission. C'est ça ce qui se passe ici. Moshe, il laisse à Yoshua la possibilité de s'épanouir, etc. Quand t'arrives à un sécurité de là, il faut transmettre à nouveau cette capacité. Et on va voir que juste après, dans la Mishnah suivante, qu'est-ce qui a marqué? Shimon HaTzadik, Wayomer. Donc, Shimon HaTzadik, il était lui-même, il dit Wayomer. Mais Antignos, qui belle, Mishimon HaTzadik. Là, on voit que, à partir d'Antignos, on va voir que tous les Chachamim, ils ont reçu de celui qui a précédé. Ça veut dire quoi, ils ont reçu? C'est-à-dire, ils ont reçu tout. À ce moment-là, la chokhma, elle se réduit. La possibilité, les tsarot, et la possibilité de compréhension est réduite. Alors, on va non seulement assister que la chokhma, elle va pas être la monopole d'un seul chacham, mais ça va être aussi une possibilité que le maître, il a de former, de donner, transmettre les enseignements, mais aussi de faire comprendre à l'élève. L'élève, sans le maître, n'arrivera pas à comprendre de lui-même. Donc, on va transmettre les deux notions. C'est ce qu'on va voir dans les Mishnayot suivantes. Pour bien noter la madriga qui s'est rabaissée. Alors, l'essentiel, nous revenons à là, nous disions, alors, et vous mettez une imbadim. Il faut être circonspect prendre le temps de réflexion. Ne t'empresse pas à juger. Pourquoi? Parce que le dit lui-même, il est là pour être arrondi. Les gens pensent que la loi, elle est carrée et qu'il faut aller tout le temps carré. Mais en réalité, la loi carrée, elle est faite pour être arrondie. C'est-à-dire, il faut arriver, le concept même de la halakha, c'est de la halakha, elle est stricte, totalement, c'est comme la Gemara dit, il court à 10 états. La halakha, elle doit transpercer la montagne. Mais en réalité, c'est invivable. Il y a des choses qu'il ne serait pas possible de faire. Alors, il y a les Chachamim, dans toutes les générations, vont trouver des ouvertures, des moyens de rendre la halakha, la rendre malléable, lui permettre aux choses de s'arrondir. Ça, c'est l'essentiel. C'est ça ce qui a marqué Metunim Badim. Mais pour être Matun Badim, il faut être Chacham. Alors, c'est pour ça qu'il faut être Mahami Talmidim Arbe. Il faut plus toi. Tu travailles à être ma'ami de l'Talmud, même s'il s'agit qu'un élève ou deux élèves, mais que le fait que de permettre à l'élève de grandir, alors ça va te donner du travail, toi-même tu vas raffiner ton savoir, tu vas maîtriser ton savoir. Et comme là, il est dit que mitalmidai yotermikula, la Mishnah va dire plus loin, j'ai appris la Torah de tous, mais des élèves, c'est le plus, c'est les élèves. Le bon élève, c'est celui qui va permettre au Rav de raffiner, il pose des bonnes questions, il le bloque. Donc, pour lui permettre de raffiner son enseignement, il ne le laisse pas tranquille. Alors ça, le Rav, il se grandit. Si toi, tu arrives à grandir, alors après, tu vas être en mesure de mettre des sillages à la Torah, de faire des barrières à la Torah. Alors, généralement, le mot barrière, il se comprend pour empêcher la transgression. C'est vrai que le mot barrière, c'est son mishmeret et mishmarti. En vérité, c'est pour empêcher les gens d'aller à la transgression. Donc, on va, par exemple, la Torah, elle dit il ne faut pas écrire. Quand ils sont venus, il te dit il ne faut pas déplacer le stylo. D'accord? Parce que si tu déplaces le stylo, tu risques de décrire. Alors, pour ne pas être amené, donc on va interdire de déplacer le crayon. Mais il ne s'agit pas uniquement de ça. Il s'agit aussi de faire en sorte de l'amener de la Torah. La sotia de la Torah, c'est de sorte que, non seulement dans les mitzvot, tu as assez, mais aussi dans les mitzvot, tu as assez, de susciter le désir, l'envie, l'attachement à la Torah, de sorte que la Torah, elle soit continuellement appliquée de manière renouvelée et nouvelle. Et b'chol yom yubel echa kahadashim, donc c'est une importance capitale. De faire ça. Et pourquoi, comme il dit Rambam, il s'agit des gens qui guident le peuple? Parce que c'est à chaque génération, il y a lieu d'instituer sur telle ou telle autre mitzvah des choses qui doivent. Parce que quand on voit qu'on se laisse aller sur telle mitzvah ou telle autre mitzvah, sur telle transgression, alors il faut s'élever et faire en sorte que les transgressions, arrêter les transgressions. Mais si on voit qu'on se laisse aller dans certains accomplissements de certaines mitzvot, alors il faut aussi, donc non seulement dans les mitzvot, l'otahasé, mais aussi dans les mitzvot. Ces trois principes-là, ils sont des principes fondamentaux. Toute la Torah tient sur trois principes. On va voir plus tard que les Mishnah après vont dire que le monde il tient sur trois piliers. Ashushad varim ha'olam kayam, Ashushad varim ha'olam omed. Il convient de faire toujours les piliers de la Torah, ils sont toujours avec une stabilité de trois piliers. À droite, à gauche et au milieu, de sorte que la stature de l'homme, atem kiroyim adam, il est au mot à l'homme, il ne sent pas kiroyim adam. Donc ça, on nous trace déjà au départ comment la transmission doit se faire. Donc, de quelle qualité doit se faire la transmission? Premièrement, le jugement, il doit être maîtrisé. Deuxièmement, il faut multiplier les enseignements. Parce que comment faire que le peuple, il va aimer la Torah? Il faut lui enseigner. Le Rambam dit quelque part que la pire des choses, c'est l'ignorance. Donc, on doit lutter contre l'ignorance. Et si on, il dit dans Akdama de Mishnah, il dit que si quelqu'un il comprend, il étudie, il comprend le sens de la mitzvah, l'application de la mitzvah, la Torah, elle amène au désir d'appliquer. C'est ça, d'ailleurs, le sens du mot veshamur, lishmor, velasot, lishmor, velasot. Lishmor, c'est d'acquérir les connaissances pour être prêt au moment opportun de pratiquer la mitzvah. Mais si je ne sais pas pratiquer la mitzvah, je n'ai pas appris les délits de telle mitzvah. Quand la mitzvah se présente, c'est même pas que c'est une mitzvah. Donc ça, c'est l'enseignement. Et midou talmidim arbe. Et de quels talmidim? Il s'agit des talmidim qui seront capables à leur tour de diriger. Mais un souci de la Torah, c'est de la manière, de cette manière-là, que les Talmidim eux-mêmes, ils seront aptes et capables d'établir des barrières pour préserver la Torah. Ça, c'est ce qui semble être la Mishnah introductive de Pirkei Avot. Et cette Mishnah-là, en fait, on peut se poser la question, pourquoi cette Mishnah-là, si elle a une importance capitale pour traduire la fidélité de la transmission, pourquoi cette Mishnah-là, elle n'est pas au début du chasse? On pourrait lui dire, Torah, Moshe Kibel Torah en Mishinaï, avant de commencer la première Mishnah du chasse de Gourachot. Pourquoi ce n'est pas marqué au début? C'est vraiment... Et la réalité, elle est que cette Mishnah-là de la Kabbalah, de la transmission fidèle, elle est, en vérité, elle est continuelle. Elle doit être continuelle. Chaque enseignement, chaque chose que nous apprenons, chaque petit détail que nous apprenons à travers tout le chasse et toutes les choumrotes, cette Mishnah-là, elle est en introduction. C'est que quand le Chacham, il parle, j'ai expliqué une fois, à une occasion, j'avais écrit il y a quelques années, à la suite d'un épisode fâcheux où on l'a fait parler dans les synagogues Bernard-Henri Lévy, j'avais trouvé que sa place n'était pas à la place où il a parlé. En carré en Bassarcé, il a parlé là où le rabbin parle. Et j'ai trouvé que ce n'était pas du tout sa place. Alors j'ai écrit un texte sur ça. Pour ne pas faire polémique, mais en vérité, j'ai expliqué dans un texte que le rav, généralement, le rav de la synagogue, à quel moment il fait sa dracha? Il fait sa dracha après la paracha. Et généralement, c'est comme ça dans toutes les communautés. Le rav, il parle après, il parle au même endroit où on a lu la Torah. Et il parle après la lecture de la Torah. Et il va commenter justement la lecture de la Torah. Il dit de quel ordre c'est? C'est comme ça. Quand on sort le Sefer Torah et on pose le Sefer Torah sur la Teva et on lit la Torah, alors moi, j'entends pas le Hazan qui lit. En vérité, quand je suis assis et j'écoute la paracha, j'entends le Mahamad Arsinaï. Donc, en vérité, quand le Hazan, il parle la paracha, il lit la paracha, c'est une reconduction du Mahamad Arsinaï. Et quand Mahamad Arsinaï s'est passé, il y a Moshe Rabbeinu qui a enseigné. D'accord, moi, Kadosh Baruch Hu, il parle, mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Alors, ils ont dit, d'aber ataïmanu benishma, il faut que tu nous expliques. Alors, le rabbin, après, la paracha, il se lève, et il s'inscrit dans cette tradition-là de transmission. Il s'inscrit, il est dans son rôle par rapport à sa petite synagogue, à sa petite keïla, ou à sa grande keïla, par rapport à là où il se trouve. Il est il s'inscrit, après la lecture de Torah, dans la transmission fidèle de Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah Mishina, etc. Il est venu ce rabbin-là et il a parlé en tant que quoi? En tant que chaînon, un maillon de la chaîne de la transmission fidèle de la Torah jusqu'au bonhomme qui est là à Sarcelles et qu'il est là. Il est lui aussi descendant de ses ancêtres, ils étaient à Arsinaï. Et le rabbin, il va expliquer ça à ce bonhomme-là. Donc il ne convenait pas. Donc c'est ça ce que j'ai l'idée. Il dit, quand on enseigne la Torah, on s'inscrit dans cette transmission-là. Et pour conclure, je me rappelle, ce soir, c'est le Yortzeit de Rav Chaim Alav Shalom, et je me rappelle ce que Rav Eman, il avait dit lors de la Levaya. Et il avait dit justement cela. Il a dit, c'est évident que Rav Chaim, que quand le Rambam ici, toutes les 40 générations de la transmission, etc., et si on avait perpétué la transmission jusqu'à notre temps, alors c'est sûr que dans la transmission de la Torah en France ou dans la communauté francophone, Rav Chaim aussi s'inscrit dans cette transmission-là. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, il est venu là et il a continué le travail de la transmission, etc. Et tout un chacun. Et c'était extraordinaire parce que c'est exactement ce que nous disent les Pirkei Avot. Et ce dracha-là, cet aspect que Rav Eman, il avait dit à ce sujet sur Rav Chaim, c'est exactement ça. Et ce chacham-là, il est un chaînon de la transmission de la Torah. Et ça fait 27 ans qu'il est Miftar, et il a travaillé pendant 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps il était en France, et tout ce qu'il a fabriqué comme élève, etc., tout ça, des milliers d'élèves, et les élèves, ils ont fait des élèves, et les arrières et petits élèves, des élèves aussi, ils ont fait des élèves. Et tout ça s'inscrit dans le chaînon. C'est-à-dire qu'arriver à les amis Talmid, de faire permettre à un élève de devenir un grand, de s'épanouir, de devenir lui mettre un cram, et de faire en sorte qu'on puisse siag la Torah, faire un siag la Torah, de faire un paravent, un garde-fou à la Torah. Non seulement pour empêcher les transgressions, pour dissuader les gens de transgresser, mais surtout de pousser et donner envie aux gens de pratiquer, de montrer la beauté, faire jaillir la lumière qu'il y a dans la Torah, de sorte que le maximum de gens soient amenés à pratiquer et à faire Avodat Hashem. C'est ce qui est Mhayenu Virach Yamenu. Le mot Torah, je me rappelle plus où j'ai vu, mais j'ai écrit ça quelque part. Le mot Torah, il fait allusion à la lumière. Comment? Alors, le mot Torah, c'est écrit Tav, Vav, Resh, Hé. Mais si tu changes le Tav, la lettre Tav, elle se change dans le Hadbash avec un Aleph. Alors, si tu écris à la place du Tav, tu écris Aleph, ça fait Ora. Donc, la Torah, c'est Or. Donc, Moshe Kibel Torah, Mishinai. Comment? Alors, le mot, alors. Là aussi, il y a un élément intéressant. Un élément intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, Moshe Kibel Torah Mishinai? Pourquoi il ne dit pas Moshe Kibel Torah Mishinai ou Mehachem? Pourquoi il dit Kibel Torah Mishinai? Il dit le mot Sinai, il a une valeur numérique de 130. La Torah, elle correspond au nom de Dieu qui est écrit de la manière suivante. Yod, il s'écrit Yod Vav Dalet. Le He, c'est He Alef. Le Vav, c'est Vav, Alef, Vav. Et le E à la fin, c'est E, Alef. Cette valeur numérique-là, elle a une valeur numérique du 44, du 45, c'est Adam, c'est l'homme. En réalité, la Torah, c'est l'homme. Il y a un rapport certain, le Zohar, il dit un rapport certain entre l'homme lui-même, le vaste monde, Olam HaGadol, le petit monde, Olam HaKatan, le microcosme qui est l'homme, et le trait d'union, c'est la Torah. Et la Torah aussi, c'est un homme. Elle est structurée de la même manière. Il dit, Maharam Galanti, il dit, la Torah, elle est faite de parachiotes, 54 parachiotes, 53 parachiotes. Les parachiotes elles-mêmes, elles sont divisées en petites parachiotes, avec des parachiotes stoumot, parachiotes tourot. Il y a des versets, il y a des mots, etc. Tout ça, c'est une structure, c'est la structure organique de c'est-à-dire tout ce qui se trouve, tous les éléments qui se trouvent dans le corps humain, les organes, tariag, éléments qui se trouvent dans le corps humain, ils se retrouvent dans la Torah. Qu'est-ce qui fait le lien entre l'homme et le vaste monde? C'est la Torah. La Torah, elle lit tout ça. Alors, il dit, comment la Torah, elle se donne? La Torah, elle est, on ne peut pas donner la Torah d'un coup. Alors, il y a ce qu'on appelle le riboua. Le riboua, c'est que la lumière, elle ne peut pas venir d'un coup. Si le Shem Havaya, il sort d'un coup, et l'homme, il ne supporte pas la lumière. Quand la lumière, elle est donnée avec une puissance telle, ça illumine tellement fort que les hommes, ils vont être éblouis. Ils ne pourront pas maîtriser la lumière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le Yod, il commence à apparaître. À Kadosh Baruch Hu, il envoie le Yod. Le Yod, il est clair. Nous, on voit un peu de Yod. Alors, on est un peu illuminé. Mais le Yod, il se retire. Il se retire et il revient avec le He. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Yod, Yod, Vav, Dalet, ça fait 20. Il apparaît, il retire. Donc, on a 20. Après, il revient. Il revient comment? Il revient avec le He. Donc, on a maintenant 20 et 6, 26. Le He, c'est écrit He, Alef. Après, ces deux-là, il se retire. Et il revient comment? Il revient à Yod, Ke, Vav. On a 39. Et après, il se retire. Et il revient à Yod, Ke, Vav, Ke. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 20. 20 et 26. 20 et 26, ça fait 46, plus 39, et plus 45, ça fait 130. C'est cette progression-là qu'on a voulu nous donner. Moshe Kibel Torah Mishinai, la Torah, elle est donnée avec progression. On ne peut pas tout recevoir d'un coup. Akadosh Baruch Hu, il illumine un peu. Et la lumière, alors il te donne la possibilité. On voit de la lumière, alors tu dois réfléchir. Et il se retire, il te laisse réfléchir. Le temps que tu maîtrises, que tu comprennes, que tu arrives à assimiler et que tu dévoiles de par toi-même. Après, il revient. Si tu as donné, tu fais les efforts voulus, alors ça revient. Ça revient encore à un niveau supérieur. Et ça se retire. Et ça revient. Et comme ça, c'est cette progression-là, ce qu'on appelle le riboua, cette progression-là, la valeur numérique de 130. C'est ça, Sinaï. Sinaï, valeur numérique de 130. C'est progressif. On peut pas, quelqu'un, il va dire, je vais faire le chasse. Il regarde rien que la bibliothèque, il voit le nombre de livres. Déjà, il a eu envie d'ouvrir le premier livre, il s'en va, il ferme, il dit c'est impossible, comment je vais faire ça? Donc, il faut commencer, si tu vois l'ensemble, c'est tellement vaste que tu es découragé. Est-ce que je suis capable, moi, de faire ça? Est-ce que je suis capable de commencer à comprendre? Chokhmat Elohim, mais comment je vais à comprendre? Alors, c'est progressif. Alors, un petit peu de lumière, on te laisse réfléchir, tu t'imprègnes un peu, il se retire, il revient, etc. C'est cette progression-là. Qui est le fondamental de l'étude de la Torah. C'est ça qui est marqué. Moshe Kibel, Torah Mishinaï. Cette Torah-là, il a reçu du Sinaï. Comment? Par cette progression. Akadosh Baruch Hu, il a laissé le temps à Moshe d'assimiler. Akadosh Baruch Hu, il explique super bien. Moshe, il est super intelligent. Et malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il lui donne le temps d'assimiler, le temps de maîtriser le savoir, de comprendre, etc. De totalement l'assimiler, le comprendre, pour après. Donc, c'est ça ce qui a marqué. Il a marqué que pourquoi dans les parachutes, il y a des blancs. Akadosh Baruch Hu, il ne s'arrête pas de parler. Oui, non, il s'arrête. Il s'arrête pour laisser le temps à Moshe de maîtriser, de comprendre, de méditer, de réfléchir, etc. D'arriver à comprendre le Hamek, la profondeur de la Svara, de la raison des choses. C'est comme ça qu'on enseigne. C'est comme ça, le Ramchal, il a une discussion entre l'élève et le maître. Il dit essentiellement, le bon maître, c'est celui qui ne dit pas tout. Celui qui dit un peu, et il laisse l'élève découvrir. Après, l'élève, il dit, mais ça veut dire ça, est-ce que ça veut dire ça? L'élève, le bon maître, c'est celui qui va savoir permettre, mettre l'élève dans le chemin de dévoiler par lui-même. Mais s'il lui dit tout, l'élève, il n'existe pas, j'ai tout dit, ça n'a aucun intérêt. C'est ça le concept du Sinaï. C'est ça la modestie. En vérité, ça fait référence au Tzimtzoum, que je vous rouille, il se retire pour laisser la place à l'homme, pour qu'il puisse s'épanouir. C'est ça le sens même, les amis Talmidi Marbé. Ça, c'est fondamental. Et chacun, il doit se retrouver, chacun selon ses capacités intellectuelles, chacun selon sa personnalité, ses désirs, ses envies, etc. Il va dévoiler sa part de la Torah pour que la Torah se grandisse. Parce que s'il y a des gens qui ne font pas le travail, alors c'est la Torah qui est perdante. Parce qu'un bonhomme, il doit dire un hidouche. S'il ne le fait pas, alors ce hidouche-là, il est perdu. Qui va le faire? Il faut qu'il revienne pour lui-même le redévoiler. Chacun a une part dans la Torah. Donc ça, c'est fondamental. Et il faut s'adonner. Alors au début, c'est un peu difficile, mais il faut s'adonner, casser la tête, poser les bonnes questions, réfléchir, tout le temps réfléchir. L'essentiel de l'étude, c'est de poser des questions. Kohama, la question, la force de l'homme, c'est de poser la nature de l'homme. C'est de poser des questions, de s'interroger, d'être curieux. C'est ça la chokhma. C'est le sens même de la chokhma. Je peux continuer si vous voulez. Vous avez des questions, je sais pas, dites-moi. Sinon, on passe, on va en avance.
Les amis, s'il y a des questions, vous pouvez écrire et comme ça, j'activerai votre micro. N'hésitez pas à mettre en conversation. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de questions. S'il y en a, je te dis, Michel.
D'accord. Alors, donc on va voir juste après Shimon HaTzadik. Donc, Shimon HaTzadik, il est chiéré Knesset HaGdola. Donc là, il faut savoir que Knesset HaGdola, c'est le judaïsme rabbinique. C'est le judaïsme qui nous correspond. Nous, on n'a pas, bien que Knesset HaGdola, ils étaient... Shimon HaTzadik, il est au début du deuxième temps, mais déjà, le deuxième temps, c'est un trait d'union entre la notion prophétique et des Nevi'im, etc., avec la notion rabbinique que nous connaissons, nous. Donc, c'est, on est dans une situation très dure. Alors, qu'est-ce qu'il dit Shimon HaTzadi, qui était le dernier, celui, il était à l'époque de Alexandre. Le grand, il dit, le monde, il tient sur trois piliers. C'est fondamental, les trois piliers. Fondamental. Le concept même de la réparation des mondes, c'est les trois piliers. Comme Rabbi Shimon, au début du Hidra Rabba, il dit, jusqu'à quand allons-nous tenir sur un seul pied? Ad emak, ad matay, nitim, al karad, de khat samcha. Jusqu'à quand nous allons tenir sur un système d'un seul pilier? Quand on est un seul pilier, c'est-à-dire que la situation, elle est, il n'y a qu'un seul pilier, les éléments, ils sont un derrière l'autre. Alors que ils ne sont pas liés les uns aux autres. Le concept même des trois piliers, c'est Abraham, Isaac et Jacob. C'est Abraham, Midat HaChesed, Itaq, c'est la rigueur. Et il faut arriver à faire, à harmoniser, à équilibrer entre les extrêmes. Alors, c'est Jacob. C'est les trois concepts des trois piliers, c'est fondamental. C'est la Torah, c'est le pilier central. Gmilut HaSadim, c'est Abraham. Et la Avoda. La Avoda, c'est le mérite. Avoir du mérite, c'est la Avoda, ça peut être ou les korbanot ou la tfila. C'est-à-dire que sans tfila, on n'a rien. Donc la avoda, elle est dans le système de Yitzhak, de la Gvura. Et Gmilut HaSadim. Mais chacun se doit d'appliquer les trois. Mais aussi, chacun, là où il va pouvoir s'épanouir, va donner la préférence et là où il sent qu'il est attiré. Donc ça, c'est la poursuite. Donc, on voit là qu'il a établi déjà le système de judaïsme rabbinique de la synagogue.
Alors, Michel, on a une question.
Oui.
Alors. Voilà. C'est bon. Le micro est ouvert.
Oui.
Sylvain. Voilà. Apparemment,
c'est parti.
Sylvain, t'avais une question, non, Sylvain? Je sais pas. J'ai vu une main ouverte. Bon, j'ai ouvert le micro. Si il a une question.
Michel. Bon.
Ouais.
Tu m'entends là?
Oui, j'entends, Sylvain.
Dis-moi, comment ça se fait qu'on dit que lorsque tu juges, dans le Pirkei Avot, lorsque tu juges, tu le vois comme un impie, et lorsqu'il s'en va, tu le vois comme un innocent?
Oui, parce que quand il vient en tribunal, il a été accusé, par exemple, il y a deux qui se disputent, ou un, il est accusé de vol, enfin, donc toi, tu es le juge, tu es assis, le type, tu dois le soupçonner, c'est-à-dire, tu dois le considérer qu'il a fauté. Donc,
s'il n'a pas fauté.
Ah non, mais a priori, ça veut dire, non, si j'ai des éléments, des témoignages, des choses, pourquoi s'il n'a pas fauté, pourquoi il va au tribunal? Il est accusé, quelqu'un qui est accusé d'avoir volé. Alors, il a priori, il y a des témoins, et il est accusé. Donc, il faut vérifier. Mais donc, imagine que le juge, il a tranché, il lui dit qu'il doit payer, etc. Alors, tu le considères qu'il a accepté la sentence. S'il accepte la sentence, de se soumettre à la sentence, donc c'est un tzaddik, il s'est repenti.
Ok.
C'est ça ce que ça veut dire. Alors, Antignos, il a reçu de Shimon HaTzadik. Comme on l'a dit, il a tout reçu. Les enseignements, mais aussi la compréhension. Alors lui, il a enseigné ici quelque chose de fondamental qui va causer énormément de problèmes après par la suite. Il a dit, ne soyez pas de ceux qui servent leur maître dans l'intention de recevoir une récompense. Mais soyez de ceux, ici à plusieurs versions, comment comprendre, mais soyez de ceux qui servent leur maître dans l'intention de ne pas recevoir de récompense. C'est-à-dire, et ça va causer du tort parce que Antignos, il avait deux élèves qui vont mal finir. Ils vont dire, c'est ça, alors il n'y a pas les rabbins, vous embrouillez. Ils vont dire, toi, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas à la mappa. Si tu me dis, je veux pas, je dois faire la Avodat Hashem et rien attendre en retour, ça veut dire que ça n'existe pas. de Baitus, Sadok et Baitus, à cause de ça, ils ont abandonné la Torah, ils sont partis faire des sectes, etc. Et parce que ils n'ont pas compris comment l'enseignement n'a pas été maîtrisé, comment il leur a dit, c'est évident qu'il y a une récompense. On l'a dit au début, ça veut dire qu'en vérité, la récompense, ce n'est pas un salaire que tu es payé. C'est en vérité, tu amènes le bon de son tikkun. La récompense, évidemment, ce n'est pas tu vas gagner, on va te payer un salaire. C'est que le monde est amené au tikkun. Le monde est amené à ce qu'il doit être en vérité, service de Dieu. Mais toi, quand tu le fais, tu ne dois pas le faire dans cette intention. C'est vrai que c'est vrai, au début de la démarche, l'homme, il va faire la Torah et les mitzvot avec intérêt. Mais à la fin, au bout des années qu'il sert Dieu, il doit comprendre que ça, c'est juste au début. Mais après, il va comprendre qu'il y a une autre dimension. C'est juste donner satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Donc, ne pas attendre le fruit, ou ne pas faire dans l'intention de recevoir une récompense. Ne fais pas ça pour ça. Parce qu'à ce moment-là, tu réduis la mitzvah. La mitzvah, elle est, en vérité, à ce moment-là, quelqu'un, comme il dit, mais c'est la Dicharim. Il dit, de plusieurs endroits, il dit, à ce moment-là, l'homme, il fait pour lui. Donc, en vérité, il n'est pas au service de Dieu, il se sert. Il le fait pour lui, il ne le fait pas pour Dieu. Chaque mitzvah, tu dois la faire, il dit, dans l'intention de ne pas recevoir de récompense. Ça n'a pas, parce que tu réduis la mitzvah, à ce moment-là, la mitzvah, elle est réduite et elle perd sa valeur. D'ailleurs, le Ramchal, il dit dans la Dirba Maron, c'est une des raisons pour lesquelles on ne voit pas le fruit de nos mitzvot. Une mitzvah, quelqu'un, il ne voit pas la lumière de la mitzvah. Il a mis les tchilines. Il y a même un, je ne sais pas, Sylvain, il a les tchilines. Il met les tchilines. Donc, il a la kdoucha sur lui. Mais tu ne vois pas où est la lumière, la récompense. Où est la conséquence de la mitzvah? Tu ne la vois pas. Elle est enfouie en haut. Elle monte tout de suite. C'est parce que justement, on n'a pas ce niveau-là de désintéressement total, même si on est un peu, on travaille sur ce désintéressement, mais on n'arrive pas à être à ce niveau-là. C'est ce que dit le Zohar au début, il dit les moissonneurs du champ, ils sont peu nombreux, ils sont sur le côté. Mais Hazé Hakla Zirininou, il dit le Zohar, ils sont peu nombreux. Ils sont à Béchouli et Karma, ils sont sur le côté. Il dit pourquoi? Parce que ceux vraiment qui font la Torah et les mitzvot, et qui ensemencent les lumières de la mitzvah, ils les voient, ils en jouissent, et ils progressent, ils rebondissent de ça. Ils sont très peu nombreux. Parce que pour ça, il faut justement cette main-là d'accomplir sans aucun intérêt. C'est ce que dit Mishnah à la fin, Rabbi Meir dit, celui qui dit Torah Lishma, de Dvarim Arbe, la fin de la Mishnah, de Perek Shishi, de Rabbi Meir, celui qui étudie la Torah Lishma, c'est-à-dire totalement Lishma, sans aucun intérêt, désintérêt. Il rayonnera de toutes sortes de félicités, de réussites. Ça, on voit que non, ça, c'est rare. Pourquoi? Parce que c'est difficile, c'est des madrigotes très élevées. Mais au moins, il faut y penser. Il faut penser que les Sfarim disent, les Sfarim Akdoshim disent, et chaque fois qu'on fait une mitzvah, chaque fois qu'on étudie, chaque fois, quoi que l'on fasse, on ne doit le faire que pour une seule et unique raison, l'akim shechinta me'afa. Imagine que la shechina, elle est souillée dans le sable, et moi, je fais par la mitzvah, je veux la relever. C'est tout ça, c'est pour la seule raison pour laquelle je fais les mitzvot. Bon, mais c'est sûr, c'est évident qu'il y a une récompense. Moi, je ne veux pas la récompense parce que je veux la récompense. Je dis, moi, je veux la récompense parce que Dieu, il veut me donner la récompense. Si quelqu'un vient, il t'offre un cadeau. Si tu lui refuses le cadeau et tu lui offenses, il dit, comme la fameuse histoire de Rabbi Zusha, vous connaissez l'histoire de Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, c'était un rabbin vagabond. Il était un grand tzaddik, mais il n'avait pas des gens, il n'avait pas de hatfer, il n'avait pas un petit midrash. Il était vagabond, il allait de village en village. Un jour, il arrive dans un village, il va à l'auberge, il s'assoit à l'auberge, il boit un café, je sais pas. Les gens, mais autour de lui, il commence à dire du vrai tort. Et tout d'un coup, il y a une dame qui rentre. Elle lui dit, Rabbi, je peux te parler. Elle lui dit, vas-y, parle. Elle dit, voilà, mon mari est âgé. Moi, je prends de l'âge. Je n'ai pas d'enfant. Comment es-tu là que j'ai un enfant? Alors, Rabbi Zosha, il voit la douleur de cette femme, il commence à pleurer. Il prie, il prie, il prie, il prie. Tout d'un coup, il y a une voix qui se fait entendre. Il dit, Rabbi Zosha, tu es en train de chambouler dans les cieux le Seder Olam. Il dit, si tu veux que la femme ait un enfant, alors ce sera au prix de tout ton Olam Haba. Tu n'auras pas ton Olam Haba. Alors, ce prix, il saute de joie, il chante, il chante, il chante, il est content. Un quart d'heure après, il continue à prier. La voix se fait entendre à nouveau. Il dit, ah, si c'est comme ça, Rabbi Zosha, non seulement la femme, elle aura l'enfant, et toi, tu auras Olam Haba. Et Rabbi Zosha, il est encore plus content. Mais quitte. La femme, elle s'en va, elle dit, tu auras un enfant. Et les élèves, ils demandent. Ils disent, on ne comprend pas. Au début, il t'a dit, tu auras pas Olam Haba, tu étais content. Après, quand il t'a dit, tu auras Olam Haba, tu étais encore content. Mais comment ça marche? Il lui dit, voilà. Il dit, moi, quand il m'a dit que elle aura l'enfant et moi, je n'aurai pas d'Olam Haba, j'étais très content. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que comme ça, je fais les mitzvot sans attendre rien en retour. Je sais qu'il n'y aurait rien. Donc, je peux faire la mitzvah entièrement consacré à Dieu pour le satisfaire. Je sais que je n'aurai pas de récompense. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a dit, il va te donner. Il dit oui. Non, si lui, il veut me donner, alors moi, je veux bien recevoir. Non, pas parce que je fais pour recevoir, mais c'est lui qui va me donner. Lui, Kadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah, tu fais ta remise, tu auras récompense. Moi je veux pas la récompense. Après, moi, lui, il veut donner la récompense. Il veut pas. Il dit, moi, je veux bien recevoir la récompense parce que lui, il veut me donner. Et si je reçois la récompense, alors c'est comme si j'honore. Mais si je ne veux pas recevoir la récompense, je l'offense. Alors je suis content de recevoir la récompense pour lui faire plaisir qu'il puisse me la donner. C'est ça la madriga de Torah Lishma. En fait, c'est ça. Il y a la même histoire avec les Gaon de Vilna. On raconte la même histoire. Et il a envoyé en Turquie des gens pour acheter un étrog. Alors le type, il se balade dans le marché d'Istanbul et il voit un étrog, il n'y a pas d'étrog. Il rentre dans un magasin, il voit un étrog en haut. Il lui dit ça. Il dit, ça, c'est le mien. Il dit, mais tu sais, c'est pour le grand rabbin de Vilna, le Gaon. Il dit, bon, tu sais quoi? Je te donne gratuit. Le étrog, je te donne gratuit pour le rabbin. Mais il dit, il y a une condition. Il dit que le sroud de la mitzvah, il est pour moi. Il dit, lui, il le fait pour moi. Alors, le type, le chaliar, il a pas su. Il a dit, non, je peux pas m'engager à ça. Il est parti. Quand il arrive chez le Gaon, il lui raconte. Il dit, il n'y a pas d'étrogine, il n'y a pas. Il dit, oui, il n'y avait pas beaucoup, mais il y avait une fois, il raconte l'histoire, que le gars, il voulait le donner gratuit, à la condition que la mitzvah soit pour lui, que le srou de la mitzvah soit pour lui, pas pour le gars. Et je dis, alors, il dit, non, mais je n'ai pas accepté. Ah, le gars, il commence à pleurer. Il dit, ah, pourquoi je n'ai pas accepté? C'est extraordinaire, ça. Il dit, voilà, c'est-à-dire que j'aurais eu au moins une fois l'occasion de faire une mitzvah, que je suis sûr que je ne suis pas récompensé. Faire la mitzvah pour la mitzvah. Et je n'ai pas réussi ça. Donc, c'est exactement cette notion-là de Torah Lishma. Juste un truc. Dans les Sfirat HaOmer, j'ai pensé à un truc de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, j'ai déjà parlé, mais je veux. Parce que souvent, on envoie des messages. Il y a des types, ils envoient des messages. Ils disent aujourd'hui, 10e jour du HaOmer. En vérité, c'est faux de dire aujourd'hui, on n'est pas le 10e jour du HaOmer. Il dit, nous, on dit à Yom, Asara, Yamim, la Omer. On dit aujourd'hui, on est 10 jours du Omer. On n'est pas le 10e jour. Donc, si je dis, on est le 10e jour, alors je compte un jour. Mais si je dis aujourd'hui, on est 10 jours du Omer, je compte 10 jours. C'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui vient et s'ajoute sur les jours d'avant. Et j'ai pensé, Shabbat, j'ai pensé, ou dernier jour de fête, j'ai réfléchi à ça. Imaginez. C'est quoi le Omer, en fait? Imaginez un arbre généalogique. Il y a des gens, ils adorent faire l'arbre généalogique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont remonter. Alors, imaginons, on va prendre Zitoun, David Zitoun. On va faire son arbre généalogique. Je prends au pif, comme ça. Alors, on va prendre sa mère, son père, et tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. D'accord? Pour arriver à qui? À David Zitoun. On a besoin d'arriver à David Zitoun. J'ai en vérité, dans tous ces imbrications et tout, j'ai besoin de prendre l'élément depuis, imagine, je vais remonter jusqu'à Avram Avinu, je monte à Avram Avinu, et je prends les éléments fondamentaux, essentiels, je suis en train de glaner les éléments fondamentaux et essentiels qui vont m'amener de Avram Avinu à David Zitoun. C'est exactement ça, en vérité, le concept de Sfirat HaOmer. Ça veut dire que, en vérité, quand tu dis Avram Avinu, c'est quoi Avram Avinu? Non, c'est un monsieur. Non, c'est pas un monsieur. C'est la Mida. Il a une Mida. Quand je vois telle personne, je ne vais pas parler des gens parce qu'il dit, tu prends par exemple monsieur David. Alors, tu as David. C'est, bon, il a, il est, on voit, il a son ADN, il a sa photo, son truc. Mais en vérité, c'est, chacun, il va être qualifié par une Mida. C'est l'idée, l'idée que l'image qu'on se fait de lui, c'est sa qualité. Après, on voit son père, sa mère, c'est tout ce qui est. Alors, en vérité, comment lui, il arrive à être ce qu'il est? C'est parce qu'il a accumulé tous les éléments qui, des individus qui l'ont, qui forment l'arbre généalogique. En vérité, c'est pas les individus en tant qu'individus qui nous importent, c'est les individus en tant que qualité. Donc, c'est comme si qu'on va et on glane les qualités, en vérité, et qu'on les forme pour avoir la personne qui est devant nous. Et c'est ça l'idée que de faire le Svirat HaOmer. Svirat HaOmer, chaque jour, imaginons que chaque jour, c'est une qualité qui correspond à un ascendant. Alors, j'ai cette qualité-là, je m'en accapare. Et je prends l'autre qualité, de l'autre ascendant, etc. Et je relis tout ça et je prends une personnalité qui est l'individu que j'ai devant moi aujourd'hui. C'est glaner les éléments, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit, on compte pas le dixième jour, on compte 10 jours. Et parce que si tu prends un jour séparé, tu n'as rien fait. On va dire, Choliot, que si quelqu'un compte un jour séparé, il n'a pas fait la mitzvah de Sfirat HaOmer. Il a compté le dixième jour, alors que dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est de glaner l'ensemble des éléments. Et ça rejoint un peu ce qui a marqué dans le Pirkei Avot. Le Zera Shimshon, dans le Toltom Shimshon, il dit que comment ça se fait que les rabbins qui sont mentionnés, s'ils avaient l'habitude, il avait l'habitude de dire telle chose. Et l'autre, il avait l'habitude de dire telle autre chose. Et l'autre, une troisième chose. Chacun, il avait une formule, une mida, une qualité, un élément oui, qui est souligné. Mais aujourd'hui, on nous dit, il faut tout faire. Mais eux, les rabbins de référence, ils faisaient qu'une chose. Si quelqu'un, il a dit, toute ma vie, j'ai grandi, parmi les uns, je parle pas, par exemple. Je parle pas. Il était silencieux. Alors, il était silencieux. Lui, il était silencieux. Mais l'autre, il disait autre chose. Il fait pas ce que l'autre, il a dit. Pourquoi? Chacun, il pratiquait à sa manière. On voit, il dit, il est bêtra, bateau, les revoirs, etc. Mais l'autre, d'après, il dit autre chose. Il dit, assez les charaves. On voit que celui qui a dit, ouvre ta maison, il fait pas assez les charaves. Et l'autre, il dit, assez les charaves. Il fait pas ce qu'il a dit, l'autre. Pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi moi, je serais obligé, a priori, de pratiquer tout? Alors, il pose cette question-là, Zera Shimshon. Il disait exactement ça. Il dit, les Kadmonim, ils savent qu'est-ce qu'ils sont venus réparer. Ils savent le manque. On a dit déjà au début, il y a 4 fois, l'homme, il va revenir en Gilgul, il a pour avoir Khelek Aramaba, après, il va avoir Ben Aramaba, Mezuman, donc, il y a 4 niveaux. Il doit faire en sorte d'acquérir les 4. Donc, qu'est-ce qui me manque pour acquérir cette part-là? Alors, les Kadmonim, les Tanaïm, les Amoraïm, ils savaient ce qu'ils sont venus réparer, ils savaient ce qu'il leur manque. Donc, chacun, il réfléchit sur sa propre existence. Et il sait cibler son manque. Et quand il s'est ciblé son manque, il sait qu'est-ce qu'il doit réparer. Donc, il sait. Alors, il dit, moi, je fais telle chose pour réparer ma vie, pour arriver à ma perfection. Et l'autre, il faisait autre chose qui lui correspondait. Aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu faire arranger. Alors, il dit, si tu veux être hassid, alors celui qui veut être hassid, il doit s'occuper de colmiller des hassidouta. Il doit s'occuper des milliers d'avot. Il faut tout faire. Parce que tu sais pas quelle est la mida qui va te, pour laquelle tu es venu. Et si, et j'ai lu pendant Shabbat, j'ai lu, Shara Gilgulim du Marhan. On voit que c'est terrible. Il raconte là-bas des épisodes de Gilgul, de tel rabbin qui étaient tous kshurim à San Echama. Il dit que lui, il aurait dû faire telle chose et qu'il a pas fait. Et pour ça, il doit jeûner, il doit faire des tikkunim, etc. Parce que comme il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il dit la raison de sa vie, elle est perdue. Si quelqu'un, il est venu pour réparer une chose secondaire, qui lui paraît secondaire, En Gilgoul d'avant, il devait s'asseoir, il s'est resté debout. Hein, je dis n'importe quoi, mais à peu près de cette dimension-là. Il revient sur Terre maintenant pour réparer le fait qu'il devait s'asseoir, qu'il reste debout. Donc, il faut s'asseoir. Il dit, mais non, si tu ne t'assois pas là, tu n'as pas fait ça, tu es venu pour rien. Donc, il faut remettre la chose. Donc, on voit que sur ces petits détails anodins, en fait, qui la vie, elle tient. Il disait ça. Il dit, comment, on ne sait pas de quoi il s'agit, alors on est obligé de tout appliquer. Il faut qu'on applique les choses de manière à ce que notre venue dans ce monde, elle ait été efficace et profitable, bénéfique, et qu'on répare ce pourquoi on est. Voilà. Baruch Adonai Eleh Olam. Amen ve'amen.